Vous écoutez RFI, il est 6h30 à Kinshasa et Paris 7h30 à Massissi. Le journal tout de suite. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
À la une, les opérations de l'armée congolaise pour déloger les rebelles du M23.
Des affrontements concentrés hier dans le territoire de Massissi, dans le Nord Kivu. Les FARDC revendiquent la prise de plusieurs villages après d'intenses combats contre les rebelles soutenus par le Rwanda. Un nouveau bilan après l'attaque du Jnim dans la zone dite du point triple dans l'extrême nord du Bénin. Il vient de passer de 28 à 30 soldats tués. Une réunion de crise avait lieu hier à Cotonou pour plancher sur les failles sécuritaires après cette attaque du 8 janvier. À la une également, les Comores et l'opposition qui annoncent son retrait des législatives. Dimanche dernier, le premier tour du scrutin avait déjà été largement boycotté. Et puis, elle doit faire son entrée en lice sur les cours d'ici une heure. Hans Jaber, donc, à l'Open d'Australie. On en parle dans le journal des sports après cette édition. Des combats dans le territoire de Massissi et la reprise de 5 villages. En République démocratique du Congo, l'armée annonce de nouveaux gains de territoire, le fruit d'intenses affrontements dans l'est du pays entre les FARDC appuyés par les groupes armés locaux dits Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les villages repris aux mains des rebelles se situent en territoire de Massissi au nord Kivu, à la frontière avec la province voisine du sud Kivu. À Goma, les précisions signées Héritier Baraka.
Ces avancées des FARDC ont été réalisées dans le cadre de l'opération dénommée Caterpillar de 2. Selon le colonel Guillaume Djike, cette action est planifiée par les commandants des opérations du Nord et du Sud Kivu.
Nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatali, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte. L'opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés.
Ce lundi, l'armée a pilonné avec un avion Sukhoi 25 les collines de Mufunzi et Nyaboro aux alentours de Ngungu, à plus d'une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, dans les massifs selon des sources locales et sécuritaires. Des combats violents opposant les deux parties ont aussi eu lieu dans un autre axe, dans les territoires de Lubero selon l'armée. Depuis le début de l'année, des affrontements d'une grande intensité entre les M23 et les FARDC sont signalés au Nord Kivu. Héritier Baraka, Goma, RFI.
En RDC toujours, la chaîne qatarienne Al Jazeera est suspendue pour 90 jours selon une annonce du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vendredi dernier déjà, les accréditations des équipes de la chaîne qatarienne avaient été retirées par le ministère de la communication. Les autorités congolaises reprochent à Al Jazeera la diffusion d'une interview de Bertrand Bissimoua, l'un des responsables du groupe armé M23. Le manque de coopération militaire entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, voilà ce qui a été pointé hier à Cotonou lors d'une réunion de crise de l'armée béninoise. Un conseil extraordinaire des forces armées après l'attaque du 8 janvier dernier qui, selon un nouveau bilan, a coûté la vie à 30 soldats dans le nord du pays. À Cotonou, la correspondance de Jean-Luc Aplogan.
Toute la hiérarchie militaire était conviée, en première ligne les patrons de la garde nationale, de l'armée de l'air, de terre et de la marine. La réunion a duré environ 2 heures avec 2 séquences. La première, comprendre ce qui s'est passé. La deuxième, évaluer le dispositif actuel et proposer les changements qui s'imposent après le drame. Le chef d'état-major de l'armée de terre et le commandant du théâtre, dépêchés sur la position attaquée, ont fait remonter leur constat. Ils y sont toujours et devraient rentrer à Cotonou ce mardi. Une des faiblesses du dispositif aujourd'hui est l'absence de coopération militaire avec le Burkina Faso et le Niger en raison du climat d'accusation et de méfiance malgré les démentis du Bénin. RFI apprend qu'au mois de décembre, le chef d'état-major de l'armée béninoise a proposé une rencontre à son homologue du Niger par écrit. Il attend toujours la réponse de Niamey. Quant aux victimes, la mort de 2 rescapés de l'attaque porte le bilan à 30 soldats tués selon des sources sécuritaires. Les corps sont rapatriés à 8 soldats et seront remis cette semaine aux familles éplorées. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Bénin encore, la Cour suprême confirme l'arrêt de mise en accusation de l'homme d'affaires Olivier Boko, ex-ami de Patrice Talon et de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki. La Cour rejette donc les pourvois des avocats des deux accusés poursuivis pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics. Cette décision ouvre la voie à un procès dont on ignore encore la date. Les avocats de la défense n'ont pas encore réagi. C'était il y a 14 ans, jour pour jour, l'incrédulité suivie d'une explosion de joie dans les rues de Tunis. Après 23 ans de dictature, Ben Ali quittait le pouvoir et les Tunisiens se prenaient à rêver de démocratie. La Tunisie ouvrait ainsi la voie des printemps arabes et suscitait l'admiration. Sa transition pacifique sera même saluée du prix Nobel de la paix en 2015. Aujourd'hui, en 2025, donc 14 ans plus tard, où en est-on en Tunisie? Élément de réponse avec Alexis Guilleux.
Pas de commémoration officielle programmée, seul un rassemblement à l'initiative de l'opposition est prévu à ce jour aux abords de l'avenue Bourguiba. L'anniversaire de la révolution ne soulève plus les foules en Tunisie et il semble loin le temps où le pays vivait au rythme des débats télévisés et radiophoniques à longueur de journée. À la sortie de la dictature, la Tunisie avait une obsession, éviter à nouveau la concentration des pouvoirs aux mains d'un seul homme. En 2014, le pays se dote alors d'une nouvelle constitution qui consacre ce que l'on a appelé les trois présidents de la République, de l'Assemblée et du gouvernement. Cela devait assurer l'équilibre des pouvoirs, mais c'est une lutte intestine qui émerge et chacun cherche à imposer ses hommes et ses idées. À cela s'ajoutent des assassinats politiques, des attentats, une crise parlementaire et économique, puis la pandémie de Covid-19. Profitant de la lassitude de ses compatriotes, le président Kais Saied, élu démocratiquement avec plus de 72% des voix en 2019, s'arroge les pleins pouvoirs moins de 2 ans plus tard. Réélu dans des conditions controversées en octobre dernier avec 90,7% des voix, le chef de l'État a depuis détricoté un à un tous les contre-pouvoirs mis en place depuis 2011. 14 ans plus tard, la Tunisie a renoué avec ce qui l'avait poussé à se soulever, le pouvoir d'un seul.
14 janvier date également du nouvel an pour les berbères du monde entier. Les berbères entrent aujourd'hui dans l'an 2975 de leur calendrier au Maroc. Ce mardi est même un jour férié. Le 14 janvier est devenu une fête nationale l'année dernière sur décision du roi Mohamed VI. En Ouganda, la reprise hier du procès de Kizza Besigye. Une procédure qui ne se poursuivra peut-être pas devant la cour martiale de Kampala. C'est en tout cas le souhait des avocats de l'ancien général de l'armée et figure emblématique de l'opposition à Yoweri Museveni. La cour martiale doit rendre aujourd'hui une décision sur sa compétence à juger Kizza Besigye. Il est accusé de détention illégale d'armes et désormais de trahison pour des crimes supposés commis à l'étranger, des accusations passibles de la peine de mort. À précision avec Christina Okello.
Les avocats de Kizza Besigye dénoncent une cour martiale sous influence directe de l'exécutif. Ils contestent également la compétence de cette juridiction militaire pour juger un civil, d'autant plus que les crimes reprochés auraient été commis hors des frontières de l'Ouganda. Pour l'un de ses avocats, Maître Kato Tumisime, c'est la vie de l'opposant qui est en jeu.
Si nous ne mettons pas un terme à ces poursuites malveillantes qui ne sont pas fondées sur la loi et qui ne garantissent pas aux deux accusés le droit à un procès équitable, ce sera une question de vie ou de mort. Si nous ne venons pas en aide à ces deux accusés, ils finiront par être condamnés à mort. La meilleure chose que nous puissions faire maintenant, c'est d'arrêter ces traitements brutaux et cruels infligés aux accusés et de faire en sorte qu'ils retrouvent leur liberté. Cela nous permettra également d'éviter qu'ils ne soient exécutés par ce régime qui utilise la cour martiale général pour les poursuivre.
Si le tribunal militaire confirme sa compétence, la défense prévoit de saisir la cour constitutionnelle pour faire stopper des procédures qu'elle estime illégitimes et dictées par des considérations politiques. Ancien général de l'armée et figure emblématique de l'opposition à Yoweri Museveni, Kizza Besigye avait annoncé l'année dernière la création d'un nouveau parti en vue des élections de 2026. Une condamnation pourrait le priver de toute participation à la vie politique pour les 10 prochaines années.
Christina Okello. Aux Comores, pas de deuxième tour des législatives pour l'opposition. Alors que les premiers résultats provisoires ont été publiés à Anjouan, l'opposition unie des Comores, un groupement de formations politiques, annonce désormais son retrait et dénonce de graves irrégularités. Dimanche dernier, lors du premier tour déjà boycotté par l'opposition, des incidents ont été signalés. Le gouvernement appelle de son côté au dialogue. Abdallah Zembaba.
Pour l'opposition unie des Comores, les preuves des fraudes existent. Daoudou Abdallah Mohamed, leader du parti Orange et porte-parole de l'OIC, dénonce l'irrégularité du scrutin de dimanche.
Je ne pense pas qu'il y avait lieu de rester dans la course. Donc nous avons décidé de nous retirer et de ne pas reconnaître ces résultats. Aujourd'hui, le président Azali a voulu faire en sorte qu'il est 100%. Mais ce que nous avons montré à l'opinion nationale et internationale, c'est que ce n'est pas un homme de parole, ce n'est pas un homme qui respecte la démocratie, encore moins les Comoriens.
Mais cette décision de retrait met en lumière les divisions au sein de l'opposition, car d'autres partis, comme le PARI, préfèrent attendre les résultats définitifs pour décider de leur stratégie. De son côté, le pouvoir invite l'opposition, munie de ses preuves, à saisir les organes habilités pour dénoncer les fraudes. Romed Msedié, conseiller politique du président Azali Assoumani.
En ce qui concerne le fait de se retirer du processus électoral, cela, bien évidemment, n'est pas une bonne chose, mais en tout état de cause, nous continuerons le dialogue pour convaincre les uns et les autres de continuer ensemble le processus électoral en tenant compte, bien sûr, des revendications qui seront présentées par nos opposants.
En juin, les 15 sièges ont été remportés dès le premier tour par le parti au pouvoir. À Moéli, où l'opposition a boycotté le scrutin dans presque toutes les circonscriptions, le camp présidentiel devrait également rafler tous les sièges. Abdelham Zembaba Moroni.
Passation de pouvoir au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a procédé à un remaniement gouvernemental ce week-end. Alors que le président congolais avait fait de la relance de l'économie le point central de ses vœux à la nation, le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a été confié à Christian Yoka, diplômé de la Sorbonne et de la Boston University. Il a travaillé plus de 20 ans au sein de l'Agence française de développement dont il était depuis 2021 le directeur Afrique. Pour Christian Yoka, la tâche s'annonce donc particulièrement ardue. Charlotte Cosset.
Avec notamment une dette publique qui a atteint les 100% du PIB en 2023, de gros chantiers attendent le nouveau ministre des Finances, souligne Alphonse Dongo, journaliste congolais, spécialiste des questions économiques.
Aujourd'hui, on est très endetté, on est dans une espèce d'assèchement financier et les défis sont énormes quant au recouvrement des recettes fiscales, douanières et quant aux performances aussi de notre trésor public. Il faut donc aussi, sur le plan international, soigner la qualité de la signature du Congo. On a eu des défauts de paiement envers les créanciers.
Pour Cédric Beng, spécialiste des marchés financiers et de l'Afrique centrale, le choix de Christian Yoka est révélateur des intentions des autorités congolaises.
Ce profil indique clairement que le Congo se prépare pour les négociations avec les partenaires techniques et financiers. Ce profil est en phase avec les attentes du Congo en ce qui concerne les réformes sur le plan budgétaire et bien sûr la connaissance profonde des mécanismes des partenaires. C'est un atout. Il y a des décisions très fortes qu'il faut prendre, notamment certaines réformes dans la gestion de la dette. Et il est important d'avoir une personne qui a les compétences techniques et aussi le réseau nécessaire.
Si le profil international et connecté de Christian Yoka suscite des espoirs pour certains observateurs, d'autres, comme Alphonse Dongo, s'interrogent sur la capacité du technocrate à, je cite, « se mettre en phase avec le terrain congolais ».
À précision, signée Charlotte Cosset. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien à l'écoute de RFI. Tout de suite, la suite d'RFI Matin avec vous, Andréane Mellard.
Merci Simon Bourtambour. On vous retrouve dans...